et bienvenue à notre prochaine étape de notre année, notre parcours de l'année de la paix, après notre parcours intensif qui a porté, j'espère, beaucoup de fruits dans le cœur de chacun. Au moins, vous donnez beaucoup de pistes de pouvoir poursuivre à qui est cette paix qui vient du Christ et aussi mener le bon combat spirituel pour le garder et grandir dedans. Donc c'est pour cela, pendant le parcours intensif, on a parlé de ce thème, de le combat spirituel, mais d'une façon un peu sommaire, parce qu'on savait qu'on aura l'occasion de parler de plus en profondeur. Donc c'est le thème de notre soirée. Donc on est heureux d'accueillir le père Antoine d'Augustin, que peut-être vous vous souvenez de lui. En mai 2024, il nous a fait la grâce de venir pendant notre veillée pour finir l'année de l'espérance. Et c'était donner un topo sur l'Esprit Saint, source de toute bénédiction. Et si vous n'avez pas entendu, et je suis sûr qu'il est toujours sur le site de la paroisse, vous pouvez tranquillement mettre le podcast pendant que vous préparez votre dîner, ou en fait le repassage, ou ce que tu veux, ou le télétravail. Donc, le père d'Augustin, il est curé, ou recteur plutôt, de sanctuaire de Notre-Dame de Victoire, que vous connaissez sûrement, à Paris 2e. Et il y a la particularité aussi d'avoir 20 ans d'expérience d'accompagnant spirituel dans le discernement pour les séminaristes. Et donc c'est pour cela que ce combat spirituel et le discernement, c'est le thème de notre soirée, pour qu'on puisse trouver la paix derrière tous nos choix. Donc sans plus d'introduction, Père Antoine, je vous laisse la parole. Donc il y aura un temps après l'intervention de Père d'Augustin, un temps de questions, si vous en avez. Voilà. Et je vous laisse la parole.
Alors, bonsoir à tous. Si vous le voulez bien, nous allons nous confier à la Sainte Vierge. C'est pour vous. Demandez à la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Sagesse, de nous aider à grandir dans l'amour de Dieu, de nous aider pendant ce temps à comprendre comment est-ce que le Seigneur nous aime et comment le Seigneur nous guide et nous conduit tout au long de notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Merci. Donc, déjà un grand merci de m'accueillir ici. J'ai dû relire mes notes, ce qui m'a rappelé des très belles choses que j'ai déjà enseignées et puis que j'ai reçues pendant ces années au séminaire, effectivement. Ce que je vous propose ce soir, c'est que l'art du discernement, c'est un art, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose normalement qui s'enseigne. C'est-à-dire que je ne devrais pas être ici. C'est quelque chose qu'on se refile les uns les autres, en fait, de père spirituel en père spirituel. On s'enseigne mutuellement. Il y a quand même parmi nous des maîtres, et il y a le maître, en tous les cas en ce qui me concerne, qui est Ignace de Loyola, qui a écrit un bouquin qu'il ne faut pas lire, qui s'appelle « Les exercices spirituels ». Pourquoi c'est un bouquin qu'il ne faut pas lire? Parce que, en fait, c'est un bouquin qui est fait pour être utilisé à l'occasion d'une retraite prêchée par quelqu'un qui a déjà fait les exercices. Et l'idée, c'est d'accompagner un frère ou une sœur à découvrir la volonté de Dieu pour lui ou pour elle. Donc, si vous le voulez bien, je vais partir de la base, spirituelle, de la base des conseils d'Ignace. Quels sont les grands conseils d'Ignace pour vivre, pour aider au discernement, et puis pour vivre le combat spirituel, le vrai combat spirituel, celui que nous menons tous. Depuis qu'on s'est né, de façon consciente ou inconsciente, on a tous combattu. Et donc, voilà. D'abord, je vais vous donner des bases. Ensuite, on va parler du combat. Et comment est-ce que, à la fin, on est quasiment toujours vainqueur, à condition d'être patient. Voilà. Alors, comme prolégomène, enfin, comme introduction, il faut partir quand même de présupposés. Le présupposé, c'est que Dieu existe. Voilà. Si on pense que Dieu n'existe pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce que c'est difficile de savoir profiter du soleil si on ne sait pas que le soleil est le soleil. Vous voyez, c'est difficile de profiter de la pluie si on ne sait pas que la pluie est la pluie. C'est aussi bête que ça. Donc la première chose, c'est d'accepter de croire en Dieu et d'accepter que Dieu vous connaisse. La deuxième chose, c'est d'accepter avant le discernement, avant tout choix, sinon le choix est biaisé à la base, c'est que quel que soit le choix qu'on va faire ou quel que soit le combat qu'on va mener, on prend la résolution au départ de le mener pour la plus grande gloire de Dieu. C'est le truc le plus important. Ignace le met dans le début des exercices. Il dit, mais avant tout, prenez la résolution de le faire pour la plus grande gloire de Dieu. Pas forcément pour gagner de l'argent, pas forcément pour être heureux, pas forcément pour être plus grand, etc., etc. Mais pour la plus grande gloire de Dieu. Et en fait, rien que ça, rien que cette vérité qui peut traîner dans notre tête, peut déjà nous aider à discerner. Est-ce que ce que je le fais pour la plus grande gloire de Dieu ? Ou est-ce que je le fais pour mon intérêt propre, conscient ou inconscient ? Est-ce que je le fais pour la plus grande gloire de Dieu ? Sachant que si je le fais pour la plus grande gloire de Dieu, la gloire de Dieu va rejaillir sur moi. Alors, tout de suite, une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? Eh bien, une traduction qui existe chez les Hébreux, en hébreu, la gloire, c'est ce qui est lourd. La gloire, c'est ce qui est lourd. Donc, quand on parle de gloire de Dieu, c'est quand on est alourdi par le mouvement divin. Vous voyez ? C'est, imaginez un bateau avec une quille. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est ce qui permet au bateau d'être stable au cap. Pour les marins d'entre vous, ça va parler. Si je suis stable au cap, c'est parce que j'ai quelque chose de lourd. Et c'est ça, la gloire de Dieu. L'autre petite chose, c'est que cette gloire de Dieu, elle est donnée, mais elle est aussi donnée parce que nous sommes faits pour elle. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que, du point de vue de la nature, même s'il y a le péché originel, on va en parler un peu, je suis fait pour le bien. Et je ne suis pas seulement fait pour le bien momentané, je suis fait pour le bien éternel. Je suis fait pour le bien à l'infini. Je suis venu ici en moto derrière Ludo. C'était un sacré moment de... J'adore faire de la moto. J'ai fait très très longtemps de la moto et je trouve que c'est génial la moto. Malheureusement, je suis trop fatigué de temps en temps et j'ai trop peur maintenant, j'ai un peu plus peur, mais c'était top. Mais on voit bien que quand on fait de la moto, on est alourdi, vous voyez. Il y a une instabilité. S'il n'y a pas de stabilité, ça ne fonctionnera pas. Mais en moto, pour les motards d'entre vous, vous allez me comprendre, au départ, quand on commence la moto, on est en 125 cm3. Environ 3 ou 4 ans plus tard, on passe à la 500. Après la 500, on passe à la 1000. Après la 1000, on passe à la 1200, etc. Il y a quelque chose en nous qui toujours veut plus. Richard, tes clubs de golf, ta dernière série, je peux te le dire, Elle date d'il y a 2 ans, non ? Un peu plus. On veut toujours, parce qu'en fait, c'est en nous. On est fait pour l'infini. Deux personnes qui s'aiment vont jamais se dire « je t'aime », mais alors, sauf les soirs de foot, de matchs de foot, quoi. Vous n'allez pas vous dire « ouais, mais alors, sauf quand il y a chasse, sauf quand, je sais pas. » On est fait pour aimer à l'infini. Et en fait, l'amitié, c'est quoi ? C'est quand on peut lire dans les yeux de l'autre que ça va être possible de s'aimer à l'infini pour toujours. Vous voyez ? Donc, Ignace, quand il dit « choisissez la gloire de Dieu », en fait, il nous dit « choisis ce qu'il y a de mieux pour toi », à savoir recevoir toute la gloire de Dieu. Parce que Ignace sait, et on va l'apprendre après, vous allez voir, c'est que si je reçois la gloire de Dieu, je suis alourdi par Dieu. Si je suis alourdi par Dieu, je vais forcément prendre la bonne direction. Même parfois sans m'en apercevoir. C'est après, souvent, quand je regarde derrière, je regarde le sillage, eh bien très souvent, on constate qu'effectivement, le bon Dieu nous a guidés quasiment toute notre vie. Donc, un, la plus grande gloire de Dieu. Deuxième chose importante avant de commencer le combat spirituel pour entrer dans le discernement, une chose capitale, c'est l'indifférence, la sainte indifférence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indifférence ? Ça ne veut pas dire que je m'en fous. L'indifférence, ça veut dire que je suis prêt à ce que le Seigneur me dise ce qu'il veut. Je suis prêt à ce que le Seigneur me mène là où il veut. Donc j'accepte de remettre ma volonté entre ses mains. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas exercer mon esprit critique, bien sûr. Le Seigneur ne fait jamais les choses de façon incohérente. Tiens, un principe de discernement, c'est que quand vous avez l'impression que le Seigneur vous appelle quelque chose, si c'est incohérent avec le reste de votre vie, vous êtes sûr que ce n'est pas de Dieu, c'est sûr et certain ça. L'indifférence. L'indifférence, c'est que on se place devant le Seigneur et on dit au Seigneur, mais Seigneur, que tu me mènes à droite, c'est ok, que tu me mènes à gauche, c'est ok. J'accompagne pas mal de prêtres. Voilà, je suis père spirituel de pas mal de prêtres. Et je leur rappelle souvent cette règle, qu'on leur a tannée au séminaire. Au séminaire, ils la connaissent par cœur, cette règle. Mais c'est bon qu'on se la rappelle. Quand ton évêque te rappelle et t'appelle au téléphone et te dit « Mais voilà, j'ai pensé que pour toi, le meilleur, c'était Saint-Cloud. » Alors que toi, tu pensais aller ailleurs. C'est un truc qu'on a tous dans le cœur. Hein. Lui comme moi, je suis à ma 9e année à Notre-Dame des Victoires. Le coup de fil de l'évêque, je peux vous assurer. Mais la seule façon d'être en paix, c'est d'entrer dans ce mouvement de la sainte indifférence. Voilà. Alors ensuite, Ignace donne une règle générale qui est très simple et qui vient de son expérience. Ignace a été blessé au siège de Pamplune, peu importe. C'est un aristocrate, il rentre dans son château. Et là, il fait une expérience. Il y a des livres dans la bibliothèque. Il y a deux styles de livres dans la bibliothèque. Il y a des récits de chevalerie et il y a des vies, il y a une vie de Jésus. Et il se rend compte que quand il lit les récits de chevalerie, il est d'abord heureux et ensuite triste. Souvenez-vous de ça, parce que ça, c'est un autre truc dans le discernement et le combat spirituel. C'est-à-dire que le bon Dieu, quand il fait quelque chose de bon pour nous, c'est bon du début à la fin, et surtout après 48 heures. Là, Ignace, il remarque, il lit le bouquin de chevalerie, il est heureux, mais le lendemain matin, il est triste. Alors que quand il lit la vie de Jésus, il remarque qu'il est heureux en lisant la vie de Jésus, et que le lendemain matin, il a le même bonheur. Et là, à partir de simplement cet événement, c'est vraiment un truc tout simple, hein, il va mettre en place la première grande règle. C'est deux pédales ou deux choses super importantes. C'est dans un cas, je suis dans la consolation. Dans un autre cas, je suis dans la désolation. consolation, désolation. Et en fait, dans notre vie, dans la vie spirituelle, dans la vie avec le Seigneur Jésus, eh bien, on tous autant qu'on est, là, depuis qu'on connaît le Seigneur Jésus, on vit tous des moments de consolation et des moments de désolation. Consolation, désolation. Et c'est à partir de ça, de cette notion, c'est plus que joie et tristesse. Je vais vous la définir tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend par désolation? Qu'est-ce qu'on entend par consolation? Je vais vous citer Ignace. Mais c'est deux choses qui vont être des signaux qui vont me permettre de m'orienter. Ça va? Consolation, désolation. J'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, et en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. La consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur. L'âme est touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. Enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi, de charité et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant, la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Voilà. C'est le numéro 316 dans les exercices. Voilà. Ça, c'est la consolation. C'est-à-dire qu'on pourrait résumer en disant que Dieu remplit toute la personne et donne la paix, la joie et la confiance. Ça, c'est un petit truc, un petit tips. Quand vous êtes très heureux, vous avez l'impression d'être consolé par le Seigneur, eh bien, il y a toujours la paix, et stable, plus de 48 heures. Il y a toujours la joie et il y a toujours la confiance dans l'avenir. Ça va? J'appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. Les ténèbres, le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres. Vous savez, c'est quand on est triste et qu'on s'incline aux choses basses et terrestres. Ça va être reprendre un troisième verre de whisky, ça va être, je sais pas moi, ça va être regarder en boucle une série sur 10 épisodes, vous voyez, basse et terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrête de faire cette chose basse et terrestre, en général, on est triste. On regrette de l'avoir fait. Ignace précise, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre. Voilà. Consolation, désolation. Alors, l'importance de la désolation, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui nous intéresse. Alors, on a envie d'être toujours dans la consolation. Très bien. Mais comment est-ce qu'on gère la désolation? Et puis, d'où vient la désolation? Donc du coup, comment est-ce que j'arrête la désolation? Comment je peux vivre avec la désolation? Parce qu'on n'a pas envie de faire la gueule toute notre vie. Ça va? Donc, la désolation a des points positifs. Et l'un des premiers points positifs, c'est que la désolation va m'apprendre à passer des réalités psychiques à des réalités proprement spirituelles et à accueillir Dieu pour lui-même. un type de désolation que la plupart des époux ont vécu, qu'un jeune prêtre de plus de, je sais pas combien il a de ce ministère, lui, 6 ans, t'as 6 ans, 7 ans, 4, oh là là, le bébé prêtre. Lieu où l'homme apprend à passer des réalités psychiques à des réalités proprement spirituelles. Vous savez, c'est le premier moment où vous avez été déçu dans le mariage. Vous vous êtes dit, ah, c'est que ça. C'est la première fois où le prêtre se dit, eh ben, ça va être long. Ça va être long. S'il ne se passe pas un truc, ça va être long. On l'a tous vécu, chers frères et sœurs, tous. Et vous, si vous êtes célibataire et que vous avez un domaine de prédilection, par exemple dans votre métier ou autre chose, il y a toujours un moment où on est déçu, tout simplement, parce qu'on s'est projeté dans une réalité psychique et Dieu est juste en train de nous dire « Ouh, la vie, c'est mieux que ça. » Mais pour qu'on le comprenne, il faut qu'on s'arrête. D'où cette forme de déception, cette forme d'amertume que Dieu va utiliser pour nous faire comprendre la vraie vie. Et ça, il le fait tout au long de la vie. Tout au long de la vie, il utilise tant qu'on met notre vie psychique dans une vérité qui n'est pas réelle ou réaliste, eh bien, Dieu nous fait passer par des moments de déception. Jusqu'à ce qu'on comprenne que la seule chose à faire, c'est vivre l'instant présent avec lui, et puis faire ce qu'il nous dit de faire, voilà, et goûter l'éternité par la goutte de l'instant présent. Voilà, c'est tout. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on est plein d'aspirations, qu'on veut des tas de trucs, qu'on veut une... Il y a beaucoup de gens, parfois, surtout autour de la 45, 50 ans, etc., qui disent « Moi, maintenant, j'ai décidé de vivre ma vie. » Oui. Ben, en fait, tu es déçu, quoi. Il va falloir que maintenant, tu te redécouvres avec le Seigneur l'appel profond de ton existence. Certaines désolations sont des tremplins pour accueillir Dieu lui-même, creuser où Dieu découvre que tout, jusqu'à son être et son agir, et don de la miséricorde surabondante de Dieu. Parce que ce qui va se passer quand on va entrer dans cette désolation, vous avez compris qu'il est permise par Dieu, et dont l'origine n'est pas le péché. Ça, c'est une autre désolation. Et bien, du coup, on va s'arrêter, on va se dire, où est-ce que j'en suis? Que veut Dieu? Que me dit Dieu? Comment est-ce qu'il m'a parlé la dernière fois? Et puis on se rappelle ce que je vous disais au début. On se remet dans la condition où on veut choisir la plus grande gloire de Dieu, on se met dans la sainte indifférence, et à ce moment-là, on s'adresse à Dieu et on lui dit « Mais Seigneur, là je suis dans la désolation, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es ?» Et dans 100% des cas, le bon Dieu vient nous chercher. 100% des cas. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Parfois, ça met une semaine. Parfois, ça met un mois, deux mois. Ça peut mettre un an. J'ai connu des séminaristes, même des prêtres. Voilà, ils étaient dans la désolation. Le bon Dieu les a plongés dans la désolation. Le temps qu'ils comprennent que sans Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Mais rien de rien. Et que tous leurs plans pastoraux, que tous leurs... Moi, je sais comment il faut faire pour que les gens se convertissent. Ah, d'accord. D'accord. Richard, on n'a pas connu ça, nous, hein, non. Voilà, consolation. Et puis le bon Dieu nous règle, en fait. Il nous règle de l'intérieur. Je vais vous montrer après comment il fait pour nous régler de l'intérieur. Seulement, ce que nous, on éprouve à l'extérieur, c'est la désolation. Mais pendant qu'on est dans la désolation, Dieu règle notre être intérieur. Comment il fait? J'y reviendrai tout à l'heure, mais tout simplement parce que nous sommes baptisés. Et parce que nous sommes baptisés, nous avons la Trinité en nous. Là, vous voyez un curé, mais là, il y a la Trinité. Et donc la Trinité, elle ne reste pas inactive. Et la Trinité, pendant ces périodes de désolation, va perfectionner quoi ? Notre intelligence, notre volonté et notre mémoire. C'est ce que dit Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin. Oui. Pendant ce temps-là, et plus je vais faire des actes de foi, et plus Dieu va me perfectionner. Qu'est-ce que je vais percevoir, moi ? Toujours la tristesse. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une transformation profonde. Ce qui fait qu'un matin, eh ben, c'est la consolation qui arrive. Ça va ? La difficulté, c'est que la désolation peut aussi être créée. Donc je vous ai dit, hein, la désolation, paresse dans la vie de prière, refus d'affronter les situations. Ça, c'est des critères de discernement pour montrer quand on est dans la désolation. Paresse dans la vie de prière, refus d'affronter les situations. On se pose des questions en boucle sans trouver de réponse. Et devant les exigences de la vie chrétienne, comme par exemple la fidélité à sa femme ou à ses engagements, eh ben on entre dans une espèce de profonde lassitude. D'accord ? On devient las devant les fidélités ordinaires. On n'a plus envie d'aller à la messe. On n'a plus envie de se lever pour prier. Les trucs habituellement qui nous rendent heureux, voilà. Ça veut dire qu'on est dans la désolation. En fait, on tourne en rond quand on est dans la désolation et on perd son temps, on a l'impression de perdre son temps. On ne fait pas ce qu'on doit faire ou ce qu'il faudrait faire. Alors la deuxième cause de la désolation ne vient pas de l'homme lui-même, de ses choix, de sa paresse, mais elle vient de l'engagement que l'homme prend et de la recherche qu'il mène. Je m'explique. Plus vous avez un engagement vis-à-vis de Dieu, un service vis-à-vis du Seigneur, plus vous priez, plus vous allez ressentir dans ce service un sentiment de désarroi, de solitude et de tristesse. Et oui, à quoi est-ce que c'est dû ? Eh bien, c'est dû à l'action de Dieu lui-même. C'est-à-dire que vous vous mettez à beaucoup prier, vous vous mettez à beaucoup servir. Qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va ouvrir les vannes de la grâce. D'accord ? Imaginez que vous avez un projecteur. D'accord ? Au début, vous commencez à croire en Dieu, vous commencez à le prier, vous commencez à vous donner à lui, vous commencez à faire plein de choses pour lui. Alors du coup, il augmente la lumière. Il augmente son action en vous. D'accord ? Mais l'effet que ça fait sur vos sens qui ne sont pas encore habitués, c'est l'obscurité. C'est la tristesse, c'est la désolation. Ça, c'est le début de la vie spirituelle. En fait, cette désolation, qui vous l'avez compris, vient de Dieu. C'est un travail que Dieu fait dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand je suis dans la désolation, ce n'est pas forcément de ma faute. Vous voyez, si vous vous êtes confessé il n'y a pas longtemps, si vous faites ce que vous avez à faire et que tout d'un coup vous tombez dans un temps de désolation, je ne sais pas moi, tout d'un coup, eh ben, ça ne vient pas forcément de vous. Vous n'êtes pas forcément le ou la responsable. Ça peut tout simplement être Dieu qui permet pendant une minute, deux minutes, trois minutes, qui augmente sa grâce, qui augmente son amour, qui fait que pendant ce temps-là, vous allez être dans une sorte de tristesse. Et étonnamment, au bout d'un moment, mais seul Dieu sait quand c'est le bon moment, eh ben, il va vous en sortir. Et tout d'un coup, à nouveau, c'est la consolation. Les maîtres spirituels appellent cela une désolation passive qui dépouille le chrétien de nombreux aspects possessifs. Parce que le problème, c'est que comme on est des êtres de désir, on veut toujours plus. D'accord ? On veut posséder toujours plus. Mais plus je veux posséder, moins Dieu peut me posséder. plus je suis rempli de choses matérielles, de choses... Alors, Maurice Zindel a une expression pour dire ça, il dit « le moi préfabriqué ». Le moi, c'est ce qui construit ma personnalité, ce que j'ai fait pour construire ma personnalité. C'est tous les trucs que je me suis rajouté à mon être pour exister, par moi-même. Ça peut être des compétences intellectuelles, ça peut être des compétences manuelles, ça peut, mais ça fait, c'est ce qui fait que je peux dire que je me suis construit ma propre identité. Eh bien, mauvaise nouvelle, il va falloir s'en séparer. Parce que notre moi empêche Dieu de déployer toute sa gloire. Et donc, petit à petit, eh ben, il va falloir remettre. Et c'est tout l'objet de la vieillesse, hein, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, entre autres. Il va falloir remettre petit à petit tout ce qui a fait notre personnalité, tout ce qui a fait notre gloire de la terre. Et comment est-ce que Dieu va faire pour ça ? Eh bien, il va nous faire traverser des périodes de désolation. Mais si on les accepte, si on fait confiance au bon Dieu, et comme dit Ignace, mais je vais y venir un petit peu plus tard, si on continue à faire pénitence, si on continue nos activités spirituelles alors qu'on est dans cette désolation, eh bien, du coup, ça va permettre à Dieu de nous détacher complètement de ce qui nous empêche d'être vraiment celui ou celle pour lequel il nous a créés. Vous voyez ? La désolation, le bon Dieu va l'utiliser pour nous détacher de nous-mêmes, enfin, de ce qu'on s'est fait, de ce qu'on s'est fabriqué, pour que lui puisse nous refabriquer. D'accord ? Alors, ces formes de désolation, elles peuvent être valables, enfin, elles peuvent exister pendant une minute, deux minutes, une heure, deux heures, et il y a d'autres cas où ça peut durer six mois, ça peut durer un an. Souvent, beaucoup plus tard dans la vie spirituelle, c'est souvent après 20 ans, 25 ans de vie spirituelle, de compagnonnage avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alors après, on en parlera ou pas, comment est-ce qu'on distingue la dépression de la désolation ? Et ça, je vous en parlerai, je vais vous donner une petite piste. Dans la dépression, il n'y a pas de paix. Dans la désolation, il y a à la fois la souffrance et à la fois la paix. Et il y a même à la fois la souffrance et à la fois la joie, ensemble. C'est très étonnant. Dans la consolation, dans la désolation, il y a les deux en même temps. Dans la dépression, c'est nada. Mais si vous voulez, on en parlera plus tard. Donc, cette désolation, qu'est-ce qu'elle va toucher ? Cette action divine, qu'est-ce qu'elle va toucher ? Eh bien, elle va toucher, toujours pareil, la mémoire, la volonté et l'intelligence, parce que c'est notre intelligence qui permet les actes de foi. C'est notre volonté qui permet les actes d'amour. Et c'est la mémoire qui permet les actes d'espérance. Et donc, le bon Dieu a besoin de purifier cette mémoire pour qu'on puisse espérer de plus en plus. Il a besoin de purifier notre volonté pour qu'on puisse aimer de plus en plus. Et il a besoin de purifier notre intelligence pour que la foi puisse grandir en nous. Voilà pourquoi, parfois, on vit une désolation dans l'intelligence, une désolation dans la volonté, on se sent comme incapable de faire des choses pour le bon Dieu, où tout d'un coup, on se rappelle plus ce qui est bon pour nous. Purification de la mémoire. Consolation et désolation sont sources de forces nouvelles pour la volonté personnelle et la connaissance plus intime de Dieu. Ces motions vont consolider la liberté de l'homme et la préparent aux décisions les plus importantes de la vie. Comment est-ce qu'on peut dire que ces motions, la désolation et la consolation, consolident la liberté ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Être libre, c'est choisir ce qui est bon pour moi. D'accord ? Être libre, c'est choisir une paire de chaussures de 42 quand je chausse du 42. Ça, c'est la liberté. Vous voyez ? Être libre, c'est faire ce qui est bon pour moi. C'est prier quand c'est bon pour moi. C'est travailler quand c'est bon pour moi. Vous voyez ? La liberté, c'est un état dans lequel je suis quand j'ai choisi ce qui est bon pour moi. Et aussi, évidemment, du coup, pour les autres qui sont autour de moi. Ça veut dire que la liberté, c'est pas de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. La liberté, c'est pas du tout me sentir bien. Je peux très bien être libre et au départ ne pas me sentir bien, parce que ça m'emmerde de faire certains trucs. Mais la liberté, c'est l'état dans lequel je suis quand j'ai choisi ce qui était bon pour moi. Je vais vous donner une petite image. Imaginez que vous êtes sur un rond-point. D'accord ? Vous arrivez sur le rond-point. Tant que vous tournez autour du rond-point, c'est la désolation. Il va falloir choisir une sortie. D'accord ? Il va falloir choisir ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Eh bien, le Seigneur va se servir de la désolation et de la consolation pour nous montrer le chemin à prendre. Évidemment, il ne va pas nous plonger dans la tristesse quand il va vouloir nous mener à droite ou à gauche. Mais il y a un moment où il va falloir qu'on le choisisse. Aujourd'hui, dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez lu, c'est l'appel de Samuel. Alors Samuel se réveille trois fois. Et trois fois, le prêtre Élie, qui ne comprend rien, il voit le petit Samuel qui débarque, il dit « Ah bon, le Seigneur, il y a quelque chose qui t'a réveillé. » Oui, il y a quelque chose. Et lui, relisez le texte, c'est à mourir de rire. Pour nous, les curés, c'est un truc génial. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les curés, on ne comprend rien devant l'appel de Samuel, mais le Seigneur va faire en sorte que le prêtre Élie finisse par comprendre. Ce que je veux dire, c'est que quand le Seigneur a une idée derrière la tête, il sait se servir de qui il veut pour arriver à ses fins. Il peut même se servir du curé de Saint-Cloud, à qui il va faire comprendre petit à petit, parce que vous avez plein d'exemples. Mais il fait pareil avec le curé de Notre-Dame des Victoires, hein, rassurez-vous. Combien, moi, j'ai de paroissiens qui me disent « Mon père, il y a ça qu'il faudrait faire. » Moi, je me dis Oui, mais si on fait ça, on ne pourra pas faire ça, etc. » Nous, on réfléchit un peu comme ça. Puis au bout d'un moment, souvent quand on est seul, hein, quand on est seul, on se dit « Elle a peut-être raison. Il va peut-être falloir faire ça. » Ce que je veux simplement vous dire, c'est que ça va venir par la consolation. C'est-à-dire que l'esprit qui agit en moi va me mettre dans la consolation pour m'aider à comprendre quelle route je dois prendre. Et pour ça, il va utiliser mon intelligence. Tout d'un coup, je vais comprendre, les choses vont s'éclairer et je vais découvrir que mon plus grand bien, c'est de prendre telle route et pas telle autre. Mais pour que je puisse en arriver là, il faut évidemment que j'ai toujours pareil, choisi de servir la plus grande gloire de Dieu. Et puis, il faut me mettre aussi dans la sainte indifférence. Donc, ces motions, désolation et consolation, vont m'aider à choisir de plus en plus ce qui est bon pour moi. Parce que je vais me rappeler tout simplement que dans ce cas-là, je suis dans la désolation, et dans ce cas-là, je suis dans la consolation. Donc, je vais finir par choisir ce qui est bon pour moi. Ça va ? C'est clair ? Pardon d'insister, mais je voudrais être sûr que vous compreniez. C'est vrai, il y a de quoi rire. Vous avez raison, madame. Alors, ces mouvements, cette désolation et cette consolation, elles vont avoir un mouvement. Il y a deux grands mouvements dans l'âme. Soit on va de mieux en mieux, soit on va de moins en moins bien. Ça va ? Vous y êtes ? Alors, on va de mieux en mieux dans la totalité de notre vie, ou on va de moins en moins bien dans la totalité de notre vie spirituelle. Mais on peut aussi aller de mieux en mieux dans une partie de notre vie spirituelle, ou de moins en moins bien dans une partie de notre vie spirituelle. Vous me suivez ? Par exemple, vous dites de plus en plus la vérité, alors que vous aviez pris l'habitude de... ne pas toujours dire la vérité. Vous dites de plus en plus la vérité. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement de croissance. D'accord ? Et quand vous dites la vérité, vous êtes dans la consolation, la paix, la croix, etc. Sauf que, dans la vie spirituelle, et c'est là qu'on va commencer à parler du combat spirituel, le démon, qui existe vraiment, le démon va vouloir casser ce mouvement ascendant. Et donc, du coup, il va agir sur votre âme. Et quand le démon agit sur une âme qui va de mieux en mieux, ce qu'on ressent, c'est la souffrance. Par exemple, vous êtes un apôtre de la vérité. Vous n'aimez pas le mensonge. Et du coup, quand vous allez être dans une situation où il y a du mensonge, ça va vous faire souffrir. Ça, c'est typiquement l'action du démon sur une personne qui va de mieux en mieux provoque la souffrance. Maintenant, dans une âme qui va de moins en moins bien, vous allez voir que ça se complique un petit peu. Par exemple, dans une personne qui prend l'habitude de plus en plus de regarder son portable, et qu'au départ, il ne le regardait que 2 heures par jour, et que maintenant, il est à 6 heures par jour. Portable. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu ou pas ? On se rend tous compte qu'il ne faut pas le faire. On se rend tous compte que ce n'est pas génial. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment va faire Dieu pour nous sortir de là ? Ben, il va agir par sa grâce, par l'Esprit Saint sur nous, et ça va nous piquer. Ça va nous faire souffrir. On va être en train de regarder un truc sur YouTube, et tout d'un coup, on va se dire « Non, c'est quand même complètement idiot. C'est pas servir la liberté que de faire ça, j'arrête. » Ben, ça va créer de la souffrance. Mais après tout, j'ai le droit de faire ça, je suis libre. Ça va ? Donc, quand le bon ange attaque une âme qui va de moins en moins bien, ça crée de la souffrance, une désolation. Quand le mauvais ange attaque une âme qui va de mieux en mieux, ça crée aussi de la souffrance. Et c'est la même. C'est pourquoi il est bon, quand ça vous arrive, d'aller voir votre curé. Ou d'aller voir quelqu'un qui vous aide à discerner, c'est-à-dire à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Est-ce que c'est du bon ange, ce que tu es en train de vivre, ou est-ce que c'est du mauvais ange ? Et là, il faut accepter une chose, c'est que dans notre tête, il y a 3 sources, si vous voulez, dans notre tête. On n'est pas tout seul, en gros. Il y a notre pensée, nous pensons. Par exemple, vous êtes en train de m'écouter et vous êtes en train de penser à peut-être à ce que je vous dis ou peut-être à autre chose, ça c'est votre problème. Mais il y a aussi le bon ange, c'est-à-dire l'Esprit Saint, Dieu, qui vous parle, et il y a aussi le mauvais ange qui peut vous parler. C'est-à-dire que quand on veut essayer de faire le bien, eh bien on n'est pas toujours conseillé par la bonne personne. Ce que je veux dire, c'est que on croit que notre intelligence suffit à faire le bien. En fait, celui qui nous parle, ça peut très bien être le mauvais ange. Alors Ignace stigmatise ça en disant, mais en nous faisant prendre conscience que toutes nos pensées ne viennent pas de Dieu et que les pensées qui viennent de Dieu amènent à la paix, alors que les pensées qui viennent du démon amènent toujours à la tristesse. Consolation, désolation. Quand vous avez une pensée qui tout le temps vous amène à la tristesse, c'est qu'elle ne vient pas du bon ange. Typiquement, les culpabilités. Vous avez fait un péché, vous vous sentez coupable. Eh bien, ces pensées de culpabilité ne viennent pas du démon, ne viennent pas du bon ange, elles viennent du démon. Toutes les pensées accusatoires, quand vous vous accusez, aucune de ces pensées-là ne vient du bon Dieu. Le bon Dieu n'accuse jamais. Jamais, 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 jamais. Le bon Dieu ne juge jamais. La plupart du temps, quand le bon Dieu veut nous corriger, soit il nous met dans une situation où on va prendre conscience des choses. Soit il va nous envoyer des anges de la terre pour nous dire des choses, c'est des personnes, des amis qui sont là. Soit le bon Dieu, et c'est ce qu'il fait très souvent, il nous dit quelque chose comme « Tu crois pas que... » Tu crois pas que... La vérité, c'est plutôt ça. Et tu crois pas que tu devrais te reposer un peu ? Tu crois pas que tu devrais rentrer un peu plus tard, un peu plus tôt du travail ? Tu crois pas que tu devrais prendre un peu de temps pour lire l'écriture ? Et tu crois pas que pour ta paix, tu devrais arrêter de parler autant ? Oui, bon Dieu, souvent il fait ça. Tu crois pas, il est très délicat. Alors au départ, on ne s'en rend pas compte. On se dit, ça ne vient pas du bon Dieu. Sauf qu'il le répète, souvent. Et petit à petit, on finit par comprendre. Ah Seigneur. Alors, quelques règles pour le combat spirituel. Donc, ce que je viens de vous dire à propos de la croissance et de la, c'est dans les règles 314 et 315. Que faire quand on est dans la désolation ? Qu'est-ce que conseille Ignace quand on est dans une désolation qui n'est pas provoquée par Dieu, mais qui est provoquée par nous ? Ou que faire quand la désolation est provoquée par Dieu. Imaginons que vous êtes dans une désolation, vous ne savez pas si c'est de Dieu ou de vous. Ignace propose ne faire aucun changement. Aucun changement. Demeurer ferme et constant dans ses résolutions. En gros, ça veut dire en période de trouble, ne jamais prendre de décision. Jamais. Une décision ne se prend jamais dans une période de trouble. Gardez ça à l'esprit. Il faut attendre d'être revenu dans la paix pour prendre la décision. Qu'est-ce que je peux faire entre le moment où je suis dans le trouble et le moment où je vais être dans la paix ? Ignace dit, multipliez la pénitence. Prenez des douches froides. Jeûnez. Il dit, augmente la pénitence. Et il dit « augmente la prière », mais tout ça de façon proportionnée. Augmente la prière, augmente la pénitence. Alors petit à petit, ton cœur, Dieu va pouvoir agir profondément dans le fond du cœur. Et petit à petit, on va basculer du côté de la consolation. Si nous sommes dans la consolation. Si on est tout content d'être... Que faire ? Parce que ça peut être aussi un piège. Le bonheur peut être un piège. Par exemple, on devient très orgueilleux. On peut devenir très orgueilleux. Donc, en cas de succès énorme, on peut devenir... Alors, Ignace dit, en cas de consolation, rappelle-toi de la désolation. Rappelle-toi juste que ça ne va pas durer. Voilà. Et que le Seigneur ton Dieu, que tu aimes, te conduit et te guide. Il le dit dans la règle 323, « Celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation et qu'il fasse dès lors provision de courage pour le moment de l'épreuve. » Voilà ce que dit Ignace. 11e règle, qu'il s'efforce aussi de s'humilier et de s'abaisser. Celui qui est dans la consolation, celui pour qui tout roule, qu'il s'efforce de s'humilier et de s'abaisser autant qu'il lui est possible, pensant de combien peu de choses il est capable au temps de la désolation. Alors attention, s'humilier, ça veut dire accepter de ne pas avoir raison. S'humilier, ça veut dire faire des choses toutes simples. S'humilier, ça veut dire, c'est être humble ou choisir l'humilité. S'humilier, c'est accepter de vivre en vérité. Voilà, c'est pas de faire des, c'est de faire des choses qui sont ni plus ni moins, mais juste en vérité. Voilà. Lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou de la consolation, au contraire, celui qui est dans la désolation se rappellera qu'il peut beaucoup avec la grâce, qu'elle lui suffit pour résister à tous ses ennemis, pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son Seigneur et Créateur. Alors maintenant, dans le combat spirituel, si on combat, c'est qu'on combat contre quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le démon. Le démon, c'est un ange, le premier des anges, c'est vrai, le plus rusé. Mais bonne nouvelle, du point de vue de la création, il est inférieur à nous. C'est-à-dire que du point de vue de l'ordre de la création, il y a Dieu, la Trinité, nous, les anges. Nous sommes supérieurs aux anges. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. D'une certaine façon, nous sommes supérieurs à l'archange Saint-Michel. Il a beau être l'archange Saint-Michel, les anges et les archanges sont à notre service. Bonne nouvelle, du coup, du point de vue, quand on considère le démon, eh bien, vous pouvez très facilement le virer. On peut très facilement virer le démon. Parce qu'on est plus puissant que lui. Parce qu'on a la Trinité en nous depuis notre baptême. Il suffit simplement de le faire. Ignace le dit d'une façon un peu particulière. J'ose à peine le faire, mais je vais vous montrer quand même. Je vais vous lire la règle, mais vous allez rester calme. Mesdames, vous allez rester calme. Oui, parce que vous allez voir, elle a une drôle de façon de dire les choses. Que faire devant le démon ? Alors, il compare, pardon, hein, il compare le démon à une femme. Non, mais je vous cite Ignace, je ne vais pas passer à côté du truc. Voyez plus que votre réaction. Parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Pas au sujet des femmes, au sujet du démon, bien sûr. L'anthropologie a fait des progrès quand même. Entre le moment d'Ignace et nous, l'anthropologie a vraiment fait des progrès. Donc on est bien d'accord. Ce que vous allez entendre n'est pas ajusté au sujet des femmes. Mais au sujet du démon, oui. Écoutez bien. Notre ennemi ressemble à une femme. Il en a la faiblesse et l'opiniâtreté. C'est le propre d'une femme lorsqu'elle se dispute avec un homme de perdre courage et de prendre la fuite aussitôt que celui-ci lui montre un visage ferme. Bon. L'homme, au contraire, commence-t-il à craindre et à reculer, la colère, la vengeance et la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de mesure. Bon, bref. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi ? C'est que le démon, si tu l'affrontes direct et de façon virile, il dégage. Si tu commences à discuter avec lui, t'as perdu. Si tu commences à tergiverser, t'as perdu. Ce qu'Ignace dit, c'est qu'avec le démon, il faut cogner, il faut frapper, il faut fuir. Et ça se fait sans réfléchir, chers frères et sœurs. Notre gros problème, c'est qu'on réfléchit trop, surtout nous les Français. Quand le démon se pointe, ça nous rend triste. On sait bien que ça ne va pas le faire. On sait bien que c'est la tentation. On sait la reconnaître. La seule chose à faire, quand ça se passe devant un ordinateur et sur Internet, c'est de se lever de l'ordinateur et de se barrer. Tout de suite ! J'essaye pas de savoir comment c'est fabriqué. Un bon entendeur, salut. Parce que c'est ce que j'entends au confessionnal tout le temps. Quand vous êtes dans une situation où vous pensez que vous allez dire du mal de quelqu'un, vous pouvez vous taire. Mais la meilleure chose à faire, c'est de partir. Vous voyez, réagir de façon brutale, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Tout de suite le manifester. Alors, il s'agit de ne pas blesser les gens qui sont autour de vous. C'est pour ça que l'humour est souvent très, très... en extrapolant, en changeant de sujet de conversation. Mais tout de suite, avec le démon, souvenez-vous, il n'y a pas 36 façons pour lutter contre lui. Il faut réagir violemment. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça que je pense que nous, on est dans un monde où la violence, on passe son temps à dire qu'il ne faut pas être violent. C'est vrai. Il ne faut pas être violent avec les gens. C'est vrai. Sauf qu'il y a des moments où la violence est nécessaire. Quand votre curé tape un drive au numéro 1 de son parcours, je suis sûr qu'il y a de la violence. Contrôlez. Mais vous voyez, la violence est aussi nécessaire. Tout à l'heure, Ludo, il a exercé de la violence pour qu'on aille vite et qu'on arrive ici. Mais quand vous exercez, quand vous réfléchissez à un problème, à une question dans votre travail, ben, vous exercez aussi une forme de violence. Vous voyez, vous attaquez la question. Donc la violence est aussi quelque chose de bon quand elle est bien ordonnée, dit Thomas d'Aquin, à une fin juste. Voilà. Donc, première chose, contre le démon, agir de façon virile. Deuxième chose, sa conduite est encore celle d'un séducteur, dit Ignace. Il demande le secret et ne redoute rien tant que d'être découvert. Ça, c'est toujours le démon. Le démon, il ne faut pas que ça soit connu. Oui, c'est les trucs qu'on fait dans l'ombre. Un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête ou la femme d'un homme d'honneur veut que ses discours et ses insinuations restent secrètes. Il craint vivement, au contraire, que la fille ne découvre à son père ou la femme à son mari ses paroles trompeuses et son intention perverse. Oui. Les idées du démon ne sont pas exposables. On ne peut pas en parler. Quand le démon nous parle, en général, on ne va pas en parler aux autres. Et c'est pas ce qu'il propose n'est pas clair. C'est pas limpide, jamais. C'est de l'ordre de la séduction, c'est-à-dire que il va vouloir prendre dans une intention qui n'est pas droite, qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne. C'est pour ça que quand on entend la voix du démon, quand on est conseillé par le mauvais ange, dit Ignace, il faut vérifier notre intention. Quelle est notre intention, au fond ? Voilà, de faire le bien, bien sûr. Est-ce que ce qu'on entend correspond au bien qu'on veut faire ? Enfin, dit Ignace, le démon imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place. Il l'attaque du côté le plus faible. C'est toujours pareil, ça. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous. Il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinal et moral. Et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche d'emporter sur nous une pleine victoire. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes comme une ville avec des murs. Quand dans la ville, dans le mur qui protège la ville, il y a un trou ou il y a une faiblesse, il va toujours passer par là. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous prenez tous les péchés, tous les péchés qui sont capables de faire l'homme, nous avons tous, autant que nous sommes ici rassemblés, nous avons tous des trous dans notre muraille. Et donc, il faut soigner ces trous, il faut les colmater. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Alors comment est-ce qu'on vainc, comment est-ce qu'on rebouche les trous de la muraille, comment est-ce qu'on, de façon plus profonde, parce que je vous ai dit, du point de vue psychologique, agir violemment contre le démon. Maintenant, nous avons des aides incroyables. D'abord, nous avons les sacrements. Dieu, la Trinité, est sans cesse en train d'agir en nous. Le démon ne peut pas entrer en nous, parce que la Trinité est présente. Le démon ne peut pas entrer en nous. Quand on se confesse, Dieu répare les brèches de la muraille. Il reconsolide la muraille. Bien sûr, il va falloir notre libre volonté pour que cette muraille soit définitivement infranchissable. Mais la confession est un sacrement de guérison de notre être, précisément au lieu où habituellement le démon nous tente. Mais je recommence tout le temps. Oui, ben retourne tout le temps au confessionnal. Et au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Parce qu'on ne se confesse jamais comme on s'est confessé la veille. Imaginez que vous vous confessiez de vol. Et que vous vous reconfessiez de vol une deuxième fois, un mois plus tard. Eh bien, cette deuxième confession n'est pas la même que la première. Vous, vous avez l'impression de redire la même chose. En fait, vous ne le redites pas de la même façon, puisque vous avez été transformé par la première confession. Et vous voyez que plus on se confesse, du coup, eh bien moins on est attaquable par le démon. Ça ne veut pas dire qu'il va pas essayer, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous, sans cesse essayer de nous rentrer dans la ville, mais ça veut dire qu'on est de plus en plus fort. Et pareil pour l'Eucharistie. Quand vous mangez le corps du Christ, eh bien, à ce moment-là, vous êtes inviolable. Vous êtes d'une très très grande force. J'en profite pour vous dire une chose, c'est que, alors je parle sous l'autorité de votre curé, qui corrigera ce que je dis. Il y a eu tout un temps où on communiait peu, parce qu'on se croyait trop pécheur. Maintenant, on est dans un temps où on communie beaucoup. Et c'est bien, parce que cette communion nous perfectionne. Quand vous mangez Jésus, Jésus il nous perfectionne. Et c'est lui qui va permettre de nous aider à être plus clairs dans notre vie spirituelle. Mais parfois, avant de manger le corps du Christ, il est bon d'aller se confesser. C'est pas qu'on a forcément fait un péché mortel. C'est pas si facile à faire, un péché mortel. Il faut la ferme volonté de se vouloir se séparer de Dieu. Pas si évident que ça. Pour un chrétien qui va bien. Voilà. Juste cette petite parenthèse que peut-être votre curé ne vous dira pas, mais n'hésitez pas à aller vous confesser, particulièrement quand vous êtes tenté par le démon, mais n'hésitez pas à vivre en même temps que l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, parce qu'il permettra à la grâce eucharistique de se déployer davantage dans votre cœur. Deuxième aide, les anges. Les anges sont d'une aide incroyable. Demandez à votre ange gardien d'agir quand vous vous sentez dans le combat spirituel. Pour ma part, il est d'une efficacité redoutable. Alors là, il agit à la seconde. Vous lui dites, ange gardien, encore une seconde. Donc les anges, l'habitude de la prière, plus vous priez, plus vous êtes unis à Dieu, moins vous pouvez tomber dans la tentation. Et puis la dernière chose qui nous aide, c'est tout simplement la récitation du chapelet. C'est pas seulement une mitraillette pour lutter contre le démon, comme je l'ai entendu, le chapelet. Le chapelet a une vertu, c'est que le chapelet nous oriente, nous alourdit vers la gloire de Dieu. Donc plus vous allez dire le chapelet de façon très très simple, et plus la gloire de Dieu va vous alourdir. C'est-à-dire que, vous voyez, la maman du ciel, parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir les bonnes idées, d'avoir la bonne attitude, et bien la maman du ciel, elle vous réoriente. Grain de chapelet après grain de chapelet, elle vous met dans le bon sens. Voilà quelques petites choses pour vivre le combat spirituel et être vainqueur. Merci beaucoup.
Merci Père. Est-ce qu'il y a de questions? Revendications?
Bonsoir mon Père. Est-ce que vous pourriez... Enfin, quand vous avez parlé de désolation, donc j'ai compris que c'était un état passager. Est-ce qu'il peut durer beaucoup plus longtemps que simplement quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Et j'ai cette épine ou écharde de saint Paul qui m'est venue, et je me demandais si vous pouviez faire la différence entre les deux. Enfin voilà, l'état de désolation par rapport à une écharde qu'un saint Paul peut traîner.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'écharde de saint Paul, elle n'est pas précisée.
Oui, mais justement.
On ne sait pas laquelle c'est. On ne sait pas de quoi il s'agit, et c'est fait exprès. C'est quelque chose dans notre existence qui nous empêche d'être en paix, qui nous empêche de nous regarder avec une parfaite satisfaction. Quand on a cette écharde, je crois qu'on en a tous une, et ben, quand on la regarde avec honnêteté, on ne peut pas dire qu'on est quelqu'un de bien. On dit, ouais, bah là, oui, effectivement, j'ai ce truc que je trimballe. Par exemple, j'arrive pas à pardonner à mon père. Par exemple, j'arrive pas à pardonner à mon fils ou à ma fille. Par exemple, voilà, c'est une espèce de truc dont on aimerait bien guérir, mais que le Seigneur ne permet, dont le Seigneur, pour l'instant, ne permet pas la guérison. C'est très étonnant. Mais c'est la vérité de la vie spirituelle. Donc ça n'est pas la désolation. Parce que la désolation, elle passe.
Vous avez dit que Dieu ne jugeait pas. Et alors, au moment de notre mort,
au moment de la mort, qu'est-ce qui va se passer?
Il va bien falloir qu'on rende compte de nos actes bons et moins bons.
Voilà. Ah. Je suis ravi que vous posiez cette question, madame, parce qu'il y en a plein qui se la posent. Vous savez, le bon Dieu, il ne fait pas une liste avec les plus et les moins, ça ne va pas du tout se passer. D'abord, vous allez avoir un cancer ou un truc comme ça, ou un 15 tonnes qui va vous écrabouiller, peu importe. Non, mais... Il faut bien mourir à un moment. La mort, c'est une chance. Hein. Ah bah oui. Parce que lisez l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, où elle raconte l'histoire d'un homme qui ne meurt pas, c'est l'horreur. Donc la mort, c'est la meilleure façon d'aller au ciel. Entre parenthèses. Bah, bon. Qu'est-ce qui se passe après? Vous allez voir Dieu. Vous allez rencontrer le Père. Et le Père va vous poser une question. C'est ça le jugement dernier. Veux-tu que je t'aime pour l'éternité? Si toute votre vie vous avez aimé, vous allez reconnaître sa question. Et vous allez vous dire, mais oui, j'ai envie d'aimer. Puisque sur la terre, vous avez tout fait pour aimer. Quand le bon Dieu va vous dire, veux-tu que je t'aime? Vous allez foncer dans ses bras. Et c'est ça le jugement dernier. Maintenant, si vous avez péché, que vous ne vous êtes pas confessé et que vous n'avez pas réparé, il va y avoir cet instant qui est le deuxième instant. Au moment de vous jeter dans les bras de Dieu, vous allez vous regarder et vont apparaître les taches que vous n'avez pas encore lavé. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va permettre que vous viviez un temps. Alors le mot « temps », on ne devrait pas l'utiliser, mais de purification. Et c'est ça le purgatoire. Mais vous voyez bien que le purgatoire, on peut très bien le vivre sur la terre aussi. En réparant, comme on peut, par des actes de charité, de foi et d'espérance, les péchés qu'on a commis. Ça va? Mais le jugement dernier, c'est ça. J'ai lu une fois un livre, tu me rappelleras le titre, c'est Dieu sans idée du mal. Je crois que c'est Bernard Cesboué, c'est ça ? Un théologien. Dieu sans idée du mal. C'est-à-dire qu'il part de l'idée que Dieu ne pense jamais le mal. C'est-à-dire que quand Dieu vous regarde, madame, vous croyez qu'il connaît votre péché, en fait, lui, il ne voit pas le mal en vous. Ceux qui voient, comment dire, sa façon de voir le mal en vous, c'est l'absence de bien. Il ne voit pas la menteuse. Il ne voit pas il voit pas celle qui a volé. Il ne voit pas celle qui a trahi. Il ne voit pas ça. Mais il voit l'absence de bien que ça a créé. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez du gruyère. Imaginez que le péché, ça fait des trous dans le gruyère. Eh bien, Dieu, il voit les trous. Il ne voit pas le péché. Il voit, parce qu'il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit plein. Et il ne voit pas le mal en nous. Enfin, il ne voit pas le mal en nous. Et c'est ça. Je ne sais pas ce que tu pourrais préciser, Richard, si tu es d'accord ou pas. Si...
Moi, je n'aime pas la gruyère non plus, mais plus le canté, voilà, qui est plein.
Je n'ai pas entendu.
Non, rien. Je suis d'accord avec toi, très bien.
C'est un peu la même chose que ce qui se passe dans le cœur d'un prêtre quand vous vous confessez. Vous dites votre péché, mais on s'en fout de votre péché. Ce qui nous intéresse, c'est vous. Et c'est pareil avec le jugement dernier. Donc quand vous allez mourir, vous allez vous plonger... Voilà, vous allez jeter dans les... Pour se préparer, quand même, la meilleure façon de se préparer à mourir, eh ben, c'est d'aimer sur la terre. Et plus vous allez aimer, c'est la meilleure façon de se préparer à la grande rencontre. C'est d'aimer. Et puis de demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à aimer. Et ça, c'est sûr que ça va bien se passer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Un petit œil espiègle.
Très bien tout ça, mais j'ai envie de dire quid de cet évangile qui nous explique, je ne me rappelle plus du début, mais Jésus dit, il sépare à droite et à gauche les bons et les mauvais, et il envoie... Venez les bénis de mon Père et les autres, allez-vous-en au feu éternel. Je simplifie, vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est un évangile qui a été tellement... On est tellement façonné par tout ce qu'on voit sur les monuments, les représentations du jugement dernier, qui, moi, m'exaspère, parce que je pense que... Bon, voilà, qu'est-ce que...
Mais d'abord, la théologie a... Vous savez que les deux grands piliers de notre foi, c'est l'Écriture... Et la tradition. Et la tradition, elle fonctionne par empilement. Donc, les gens du Moyen-Âge n'avaient pas la même connaissance des vérités sur Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est comme cette phrase de l'Évangile, « À ceux qui ont, on donnera encore, et à ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ce qu'ils ont. » C'est comme les vierges folles et les vierges sages. Pourquoi les vierges sages ne filent pas de leur huile aux vierges sages? Moi, ça m'a toujours espéré, ça. J'ai envie de prendre les vierges sages et de leur dire, hey, dis donc, tu déconnes ou quoi, les vierges sages? Va donner ton huile tout de suite. Ma mère, c'est ce qu'elle aurait fait. Hein. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai. Elle dit ça parce qu'elle la connaît. Alors, la réponse, c'est ça. C'est que... c'est pas Dieu qui dit, toi, à droite, toi, à gauche, c'est nous qui vivons le jugement. Mais on le vit déjà sur cette terre. Plus on fait ce que le bon Dieu nous demande, plus on est heureux. Moins on fait ce que le bon Dieu nous demande, moins on est heureux. Le jugement dernier, on le vit déjà. C'est-à-dire que à ceux qui ont de l'amour, on donnera encore de l'amour. À ceux qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, on leur enlèvera même ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on a le choix entre aimer et ne pas aimer. Mais on l'a vraiment, ce choix. Et la séparation, elle se fera toute seule. Parce que quel est celui qui va en enfer ? Quelle gueule il a, celui qui va en enfer ? Il ne veut pas aimer. Quand il va arriver devant Dieu, et Dieu va dire « Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» Il va dire à Dieu « C'est pas nécessaire. » Parce qu'il n'aura pas su reconnaître l'amour, parce qu'il n'a pas aimé. Comme il n'a pas aimé, il ne peut pas reconnaître ce que c'est que l'amour. Et s'il n'a pas aimé, c'est qu'il n'a pas voulu aimer. Et c'est vrai que dans les tympans de nos cathédrales, il y a cette balance avec une âme qui pèse plus lourd que l'autre en fonction de tous les actes bons. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je vais donner une petite image, puisqu'on est... Encore 2 minutes. Puisqu'on est à la crèche, là, on est encore Noël. Et... Vous savez que ma mère, vous ne savez pas, mais on est 4 garçons. Et avant Noël, ma mère, elle met le long de la plinthe en face de la crèche, elle mettait 4 moutons. Le mouton 1, c'était moi. Le mouton 2, le mouton 3, le mouton 4, c'était mes frères. Ok ? À chaque fois qu'on faisait quelque chose de bien, parce que c'était une bonne chrétienne, elle voulait absolument qu'on fasse la charité, etc., etc. À chaque fois qu'on faisait quelque chose de bien, maman, on avançait le mouton vers la crèche. D'accord ? Mes frères, c'est des champions du monde. Ils mettaient le couvert à toute vitesse, ils allaient vider la poubelle, machin, etc. Le mouton, poum, 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 le mouton, il arrivait à la crèche. Je vous jure que c'est la vérité pure. Moi, mon mouton, il laissait toujours coller à la plainte. Non, mais sérieux, quand vous avez... Je me souviens, c'était à 6 ans, 6 ans et demi, j'en étais, mais furieux. Impossible. J'arrivais pas. Je décollais pas de la plainte. Et alors, je suis allé prier le Seigneur. Je me souviens, j'étais sur mon lit... Enfin, j'étais à genoux devant mon lit, il y avait la croix sur le mur. Je dis, mais Seigneur, comment je fais pour quitter la plainte ? Là, ça ne peut pas durer comme situation. Écoutez-moi les amis, ce qui est arrivé. J'ai senti dans mon cœur la solution. Et qui m'est arrivée comme une lumière incroyable. J'ai couru à la crèche. J'ai pris l'enfant Jésus, je l'ai mis à côté de la plainte. Mais c'est ça le jugement dernier. Nous, les Français, on croit qu'on va arriver au ciel à cause de nos efforts. Et on rame, et on rame, et on rame, et on s'accuse. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Richard, il sait très bien que le mouvement du club de golf doit se faire sans forcer. Si tu forces, tu sors du parcours. Hein ? C'est ça qui est super dur. Il ne faut pas forcer. Et bien, la vie spirituelle, c'est pareil. C'est Dieu qui nous donne tout. Sans forcer. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on accepte qu'il nous fasse grandir. C'est qu'on accepte qu'il nous donne la vie qu'il nous a donnée. Vous voyez ? C'est qu'on consente. Et comme on a la Trinité à l'intérieur, ça va le faire nickel. Mais maintenant, si on force avec notre petite intelligence pointue, avec notre petite volonté, avec notre petite culture, avec... ça va forcer, ça va sortir du parcours. Vous sentez ce que je veux dire ? C'est ça le jugement dernier. On a tout pour aller au ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus a des mots qui sont extraordinaires. Thérèse, elle pense qu'il y a beaucoup de gens au ciel. Je n'ai pas le droit de dire que tous les êtres humains sont au ciel. Je peux l'espérer. Mais à cause de la liberté, je crois qu'il y a vraiment des gens qui ne veulent pas être aimés pour l'éternité. Beaucoup prié pour les âmes du purgatoire. Entre parenthèses. Ça va? Est-ce que j'ai fait le job?
Merci. Merci Père, comme ça je suis rassuré qu'au ciel il y a du golf, donc j'ai encore le temps de perfectionner le swing encore sur terre. Donc, merci pour tous ces éclairages, ils sont précieux et on va pouvoir maintenant construire, de mener le bon combat qui nous mène vers le deuxième ou la prochaine étape de notre parcours, ce serait sur le pardon. Et donc ce serait notre veillée de prière le 19 février. Donc le 18 février, comme vous savez tous, c'est le mercredi de cendre. Et donc le lendemain, juste avant le départ aux vacances au ski, il y a notre veillée de prière sur le pardon. Et pendant les trois semaines qui précèdent, on va circuler le relique de notre saint patron, qui est aussi le prince du pardon, Saint Claude Wald, et que dans chaque église, il va circuler pendant trois semaines qui précèdent, et on va demander à notre saint patron de nous aider à aller sur ce chemin de pardon. Et justement, je rebondis ce que tu viens de dire, Père, c'est en arrivant devant le bon Dieu, on va être conforme avec lui, on espère, pour entrer au ciel. Mais s'il y a quelque chose qui pourrait nous empêcher, quelque chose qu'on a besoin de purifier, souvent ça peut être un refus de pardonner, un refus d'entrer dans la miséricorde du Seigneur, l'accorder aux autres, qui empêchent d'entrer pleinement dans la vie. Donc c'est pour cela qu'on va passer cette prochaine étape de notre parcours, de vraiment concentrer, demander le Seigneur cette grâce de pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal avec miséricorde, pas juste dans la justice, mais aussi s'il y a de pardon à demander, de faire cette démarche. Donc ce serait la prochaine étape de notre parcours et on est heureux de faire ce parcours pour qu'en fin de l'année, on va avoir tous cette paix profonde et durable qui vient du Seigneur. Donc, pour ça, même si on a déjà prié la Vierge Marie, je vous invite maintenant de prier deux fois en chantant, demandant à la Vierge Marie de nous accompagner dans notre combat spirituel, elle qui a toujours su repousser avec force toute tentation pour avoir gardé son cœur immaculé. Nous apprennent aussi de mener bon combat, d'avoir le cœur débordant de joie et de paix, comme son cœur.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, direct à la maison. Voilà.